L'État, c'est vous. L'État, c'est vous, le quart d'heure mensuel de Sophie Broca, préfète d'Eure-et-Loire. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de l'émission L'État, c'est vous, l'émission qui vous permet d'avoir des nouvelles de l'action de l'État en Eure-et-Loire, avec le concours actif, bien évidemment, de la préfète Sophie Broca. Aujourd'hui, nous allons revenir sur un double événement. Tout d'abord, les résultats du concours national de la résistance et de la déportation, qui ont été proclamés dernièrement au Salon des Ligneries, c'est la préfecture rue Colin d'Arleville à Chartres, et puis dans la cour d'honneur de la préfecture, une exposition réalisée par les résidents de la Fondation Dalire. Mais tout d'abord, je vous propose d'entendre Ismaël, jeune stagiaire d'une école de journalisme à Radio Rancière, qui a interviewé un groupe de gagnants du concours national de la résistance et de la déportation.
Karim Mekian, première S.
Constance Binet, première S.
Goyot Mathilde en première ES.
Vous êtes tous au lycée Marceau, c'est ça?
Oui.
Alors, est-ce que vous pourriez essayer de nous présenter votre projet?
En fait, déjà, le projet qu'on a fait, c'est qu'on a écrit une chanson où mon camarade a composé la musique, j'ai chanté, et Mathilde a écrit les paroles et le rapport, tout ça. Et en fait, notre but, c'était vraiment, on a pris deux personnes qui étaient totalement inconnues du monde de la résistance. C'est pas deux personnes connues, il y a un Danois qu'on est allé chercher au Danemark, et aussi mon arrière-grand-oncle. Et ensuite, si on voulait vraiment transmettre ce qu'ils ont vécu, parce qu'ils sont pas du tout connus, en fait, on peut chercher sur Internet, on les trouve pas, et voilà, c'était un peu notre but de transmettre tout ça.
Mais alors, ces gens, vous avez échangé avec eux de vive voix ou...
On a recueilli des témoignages de leurs petits-enfants.
En fait, c'est qu'ils sont tous les deux décédés. Il y en a un qui est mort en camp. L'autre, en fait, c'est sa petite-fille ou son arrière-petite-fille qui nous a écrit un témoignage. C'est pour ça que c'était compliqué, parce qu'il n'y a pas de papier vraiment qui dise « oui, ils ont été résistants ». C'était vraiment sur le témoignage et la rencontre avec les personnes.
Comment vous êtes organisé pour recevoir, le témoignage de cette personne? Je suppose que c'est la descendante du résistant danois.
Je suis partie en voyage au Danemark aux vacances de Noël, et c'est des amis de mes parents je leur ai demandé est-ce que vous connaissez un résistant danois, tout ça, et c'était son arrière-grand-père, et ils m'ont expliqué tout ça. Ouais. Et c'est un échange par mail et par Skype.
Et j'ai cru comprendre que vous aviez fait ça sous forme de boîte à musique, un de vos professeurs l'a dit.
Oui, alors c'était une boîte à musique présentée comme une capsule temporelle. Qui en fait transmettait l'histoire de ces gens parce qu'elle n'est pas connue, et on a voulu donc la faire connaître en fait.
Une autre question, est-ce que c'est la première fois que vous participez au concours national de la résistance et de la déportation?
Oui.
Tous. Et alors pourquoi cette année vous êtes décidé à y participer?
En fait, tout d'abord notre prof nous en a parlé, et je voulais le faire, mais mes deux camarades pas. Et je les ai obligés à me suivre.
Au final, vous le regrettez pas?
Non, c'était sympathique de travailler avec eux, avec lui surtout. Et on a un beau prix, donc c'est cool.
Alors, votre prix, ce sont des livres. Vous allez faire comment pour le partage?
Ils sont tous en trois exemplaires, en fait. Il y en a un par personne à chaque fois.
Vous préparez votre bac de français? C'était pas un peu difficile?
C'était compliqué parce que deux semaines avant, il y avait l'oral des TPE. Donc on a un peu tout enchaîné à la va-vite, on va dire. Voilà.
Après, Constance est quelqu'un de très, très organisé et s'est occupé de notre emploi du temps, en quelque sorte.
Finalement, qu'est-ce que vous allez en retirer de toute cette expérience du concours de la résistance?
Déjà, on a beaucoup appris sur la résistance et surtout les petites résistances, donc on ne parle pas beaucoup. Et une organisation de travail qu'on a eue à la dernière minute, mais qu'on a eue quand même. Et surtout une création artistique et une bonne entente entre nous trois, finalement, parce que je ne les connaissais pas particulièrement et on s'est bien entendus. Et ça restera un beau souvenir.
C'est ça, comme elle a dit, on ne se connaissait pas trop. Et on est devenus super amis, en fait, parce qu'on a fait tout ce travail tous ensemble, on a travaillé. Et c'est surtout que c'est un travail, on va dire, titanesque, très gros. Et comme ça, ça nous entraînait pour plus tard à faire de gros projets, tout ça.
Surtout le travail en groupe, comment s'organiser pour le travail en groupe, parce qu'on a eu du mal au début, on était en retard, mais on a réussi à tout finir.
Bah, par rapport à la Seconde Guerre mondiale et au devoir de mémoire, bah, est-ce que vous, auparavant, je veux dire avant ce concours, vous vous intéressiez déjà à cette période de l'histoire ?
Comment dire ? Bah, je ne connaissais pas particulièrement la Seconde Guerre mondiale. Je connaissais ce qu'on apprenait à l'école, mais pas quelque chose de plus profond forcément. Et comme ça, ça approfondit mes propres connaissances et celles de mon équipe. Et on a appris beaucoup en fait sur toute l'histoire et le fait qu'il faut transmettre, parce que c'était mon grand-père qui connaissait toute cette histoire mais qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Et on se disait, ah, s'il avait été là, on aurait peut-être eu plus d'informations. Donc on a appris que ouais, la Seconde Guerre mondiale, c'est aussi transmettre.
Ça a surtout rajouté du sentimental à l'histoire qu'on connaît par nos professeurs. On a des gens qui, bah, que Constance a côtoyé, enfin, pas côtoyé, mais des connaissances de la famille de Constance, et ça rajoute un côté sentimental à l'histoire. Et ouais, voilà, c'est plus proche, c'est pas des grandes figures comme on les connaît, on connaît leur nom, mais des gens plus proches du peuple. Et,
Est-ce que vous pensez, est-ce que vous comptez continuer à propager ou en tout cas à faire passer le message et puis la mémoire de ces gens-là ?
Bah, oui, d'abord parce qu'on est passé au niveau académique, donc on espère quand même, le gagner. Et puis, sinon oui aussi.
Oui, on fait. Étant donné que c'est une chanson, on compte toujours l'écouter ou la faire écouter à d'autres personnes et continuer comme ça de faire connaître leur histoire.
Voilà, c'était les premières réactions de ces lycéens de Marceau après l'énoncé des résultats de son concours national de la déportation et de la résistance, des propos recueillis par Ismaël Jubien. Je vous propose à présent de prendre connaissance d'une exposition qui s'est déroulée, elle n'est plus visible hélas, qui s'est déroulée dans la cour d'honneur de la préfecture de Chartres. Je ne vous en dis pas plus. Alors, en marge de ce concours national de la résistance et de la déportation, là, on est dans la cour d'honneur, je ne sais pas si elle s'appelle la cour d'honneur de la préfecture, et avec quelle surprise et quel émerveillement, on peut découvrir une exposition très étonnante d'art plastique, d'œuvres d'art brut, on va dire. On a l'impression d'être au milieu de l'univers de Gaston Chessac, qu'on doit aux résidents de la Fondation d'Aligre. Alors tout d'abord, je me tourne vers Sophie Broca, préfète de Haute-Loire, qui va nous dire le pourquoi de cette expo.
C'est la semaine du développement durable, comme chaque année, du 30 mai au 5 juin. Et on a eu envie, avec la Fondation d'Aligre et avec le soutien de la Fondation du Crédit Agricole, de l'ADEME, Centre-Val de Loire, et du lycée agricole de la Saussée, de présenter des créations des résidents de la Fondation d'Aligre, réalisées entièrement à partir de déchets, de choses que on veut jeter, qu'on veut oublier, pour sensibiliser à une double question. D'abord, arrêtons de consommer du plastique, de jeter, de concevoir notre vie comme une consommation effrénée, premièrement. Et deuxièmement, et à cet égard, le gouvernement a des ambitions importantes, il a bien raison, vous savez qu'on produit une tonne de déchets ménagers en France par seconde, et qu'un sac plastique met 450 ans à se dégrader, et qu'en 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans si on n'arrête pas de consommer de manière irresponsable. Premier objectif, c'était donc sensibiliser les citoyens à ça. Deuxième objectif, c'était aussi, et c'est du développement durable, faire que le public, le grand public, rencontre aisément les résidents de la Fondation, c'est-à-dire des personnes en situation de handicap mental et moteur, car s'il faut défendre la planète, il faut aussi respecter ceux qui y vivent.
Merci beaucoup Sophie Broca. Alors, à ma droite maintenant, elle va se présenter elle-même.
Haute de Tocqueville, commissaire de cette exposition.
Commissaire de cette exposition, donc on doit aux résidents de la Fondation d'Aligre. C'est une exposition de très grande qualité. Je veux dire que dans l'art brut, on trouve des choses ici, moi je trouve, qu'on ne trouve pas ailleurs.
Absolument, et c'est pour ça que je pense que c'était une très très bonne idée, pour une fois, d'exposer cette collection qui appartient donc à la Fondation d'Aligre et Marie-Thérèse, qui se trouve à Lèves, hors les murs, parce que ces tableaux et ces sculptures que vous pouvez voir ici n'étaient jamais sortis de la Fondation. Donc c'est vraiment une très très bonne idée. Et la première fois que j'avais été voir ces œuvres, j'avais été frappée par leur côté à la fois très touchante, très émouvante, parfois très drôle, parfois très, très forte. Et je trouve que ce travail qui a été réalisé par une vingtaine de résidents, ce sont des œuvres collectives, hein, c'est pas un artiste qui a fait une œuvre. Donc ce travail avec, comme disait Sophie Broca, réalisé avec des objets du quotidien, méritait vraiment d'être ouvert au grand public. Et l'autre chose qui est très intéressante, c'est que pendant cette semaine, des résidents viendront l'après-midi, parce que c'est ouvert donc de 14 à 18 heures l'après-midi, viendront, j'espère, partager avec le public ce qu'ils ont réalisé. Et ce qui est, je trouve, très intéressant aussi, c'est que le public ait un autre regard sur ces résidents qui ont un handicap mais qui ont une richesse incroyable. Moi, j'ai découvert c'était formidable ce matin. 5 ou 6 personnes de la fondation sont venues nous aider à mettre les petites étiquettes, parce que les tableaux et les sculptures ont des titres. Les titres ont été vraiment décidés par les résidents. Alors il y a des titres très très drôles. Il faut que vous veniez voir. On peut peut-être en faire un peu le tour.
Oui, allons-y, marchons. Alors, il faut dire, surtout pas de misérabilisme, il n'y a rien de pire que le misérabilisme. Ce sont des œuvres, on prend un plaisir énorme, il y a un humour, un sens plastique extraordinaire.
Alors là, on est devant avec sa façade et ses pavés très minérales, et je trouve que ces œuvres ici, ça va très très bien.
Hélas, pour vous, l'exposition est terminée. Peut-être avez-vous la possibilité de la découvrir à la Fondation d'Aligre. Je vous renvoie vers ce lieu de vie qui se situe à Lèves dans un cadre absolument extraordinaire, puisqu'il s'agit d'une sorte de château, pour ainsi dire. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée à l'écoute des programmes de Radio Rentiel qui se poursuivent, évidemment pour votre plus grand plaisir en tout cas. Nous l'espérons tous. L'État, c'est vous. Eh bien, désormais, ce sera à la rentrée avec Sophie Broca, préfète d'Eure-et-Loire.
Tu rêvais à Chopin ou à Franz Liszt, dans un grand salon de l'hôtel Ritz. Tu écrivais les mots sur un bloc-notes. Tu ressemblais à la Zelda de Scott. Tu portais une cape de zipline en écoute un cachemire de Led Zeppelin. Tu portais une cape de zipline en écoute un cachemire de Led Zeppelin. Toutes les femmes de la terre étaient là, dans un coin de ta tête de soldat. Angela, Rosa et Virginia, et tant d'autres que je ne connais pas. Tu portais une cape de zipline en écoute un cachemire de Led Zeppelin. Tu portais une cape de zipline en écoute un cachemire de Led Zeppelin. Tous les mots étouffés par les baillons sont dans les rêves des femmes et les prisons. Plus jamais elles ne quitteront les villes comme Zelda pour entrer dans un asile. Tu portais une cape de zipline en écoute un cachemire de Led Zeppelin. Tu portais une cape de zipline en écoute un cachemire de Led Zeppelin. Tu portais une cape de zipline en écoute un cachemire de Led Zeppelin. Tu portais une cape de zipline en écoute un cachemire de Led Zeppelin.